Donc on l'a dit ce soir, le sujet c'est l'environnement du croyant, le monde. Donc lors de la réunion précédente où on a parlé de la tentation, Christian a mentionné trois ennemis du croyant. Et je crois qu'on peut dire les trois ennemis parce que ce trio forme finalement l'ensemble de tout ce qui va s'opposer au croyant. Ces trois ennemis sont la chair, le monde et le diable. Alors, si on veut résumer, on peut dire que la chair est en nous, le monde est autour de nous, et puis le diable, qui est un ange déchu, il agit là où il entrevoit des opportunités. Je vais lire passablement de versets ce soir, il y en a beaucoup qui seront au tableau, et puis les autres, c'est peut-être pas nécessaire de les lire, de les chercher, parce que je vais passer dessus rapidement, mais par rapport au diable, on lit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, éveillés. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous cherchant qui il pourra dévorer. » Et puis, on lit aussi quelque chose de ça dans Job 1, verset 7, « L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De courir ça et là sur la terre et de m'y promener. » Donc, on voit finalement la même chose, Satan qui est un opportuniste. Mais il a ses limites, puisque au chapitre 1 de Job, au verset 12, on lit « Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qu'il a est entre tes mains, donc à Job, seulement tu n'étendras pas ta main sur lui. » Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. Donc, Dieu va poser les limites à Satan. C'est un opportuniste, mais il est quand même limité de son action par Dieu qui est plus puissant. Donc, le sujet de ce soir, c'est le monde, le deuxième de ses ennemis, on peut dire. Et puis, le but, à la fin de la soirée, ce serait de discerner qu'est-ce que c'est que le monde. On a dit qu'il est autour de nous, mais qu'est-ce que c'est exactement ? D'être convaincu que c'est un ennemi pour nous. Ce n'est pas un personnage neutre qui nous entoure, c'est un ennemi et à qui on ne doit rien laisser. Et puis, si c'est un ennemi, comment lutter contre lui et qu'est-ce qu'on va faire finalement alors qu'on est dans le monde ? Donc, on va commencer avec le verset de Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et puis, 1 Jean 2, 15. « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Donc, déjà là, on se dit que soit l'apôtre Jean, il n'est pas cohérent, soit il faut commencer par regarder quelques définitions de ce qu'est le monde. Et puis que peut-être, dans la parole, ça n'a pas toujours la même signification. Donc, le plan de notre soirée sera ainsi fait. On va regarder quelques définitions que j'ai reprises d'un livre « Conflit, les trois ennemis du croyant ». Ensuite, on verra la nature du monde, de quoi est-ce qu'il est fait. Les caractéristiques du monde, ce sera plutôt son action, comment est-ce qu'il est et qu'il agit autour de nous. Ensuite, on va parler des tactiques du monde, et puis on va arriver à une fausse conclusion. Et puis, on va essayer de redresser le tir, on va voir comment agir dans la pratique, et puis d'arriver à une conclusion un peu meilleure. Donc, premièrement, dans nos Bibles, il y a au moins trois mots grecs ou quatre mots grecs qui sont traduits par le monde ou par des synonymes suivant les traductions. Donc, le premier mot grec, c'est cosmos, et il va avoir trois significations différentes. La première, ce sera la Terre, en tant qu'entité physique et l'utilisation légitime qu'on en fait. On va trouver cette signification dans le verset d'Actes 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde, donc là, au globe, à la terre, et toutes les choses qui y sont, lui est le Seigneur du ciel et de la terre. Et puis, dans 1 Timothée 6, verset 7, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. » Donc ici, on pourrait parler de la planète Terre, ou bien dans le deuxième verset, sur la terre, sur Terre. Ça pourrait être des synonymes à ce sens-là du monde. Et ici, on voit qu'il n'y a pas de connotation négative à cette signification-là du monde. La deuxième signification, qui est toujours une traduction du mot « cosmos », c'est le monde des humains, la race humaine. On va trouver cette signification dans le verset de Matthieu 5, 14. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Les chrétiens sont être appelé à être une lumière, pas pour la Terre en tant qu'objet ou que planète, mais aux autres humains qui ne sont pas. Enfin, à l'ensemble des êtres humains. Et puis, un deuxième exemple, eh bien, c'est ce verset de Jean 3,16 qu'on vient de lire. Une troisième signification du mot « cosmos », c'est le monde, système organisé et dirigé par Satan. Donc là, on sent qu'on se rapproche déjà plus de la signification qui va nous occuper ce soir. On peut lire le verset de Jean 12, 31. « Maintenant est le jugement de ce monde. Maintenant, le chef de ce monde sera jeté dehors. » En Corinthiens 2,12, « Mais nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu. » Donc il y a une opposition entre ces deux esprits. « Afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. » Galates 6, verset 14, « Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié et moi au monde. » Et puis, encore un verset, Jacques 4, verset 4, « Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu ? Quiconque, donc, voudra être ami du monde, se constitue ennemi de Dieu. » Donc, avec ces quatre versets, on pourrait en lire bien d'autres, mais avec ces quatre versets, on va déjà avoir quatre indices importants par rapport à ce qu'est le monde, ce monde dont on parle là. Dans le premier verset, on voit que le monde, il a un chef, et on devine bien qu'il s'agit de Satan lui-même. Dans le deuxième verset, on parle de l'esprit du monde, donc il y a un esprit ou un état d'esprit dans ce monde. Il y a comme un mouvement qui entraîne, on parlera plus tard comme une rivière qui coule, et puis ce monde, on sent qu'il coule vers un but. Dans Éphésiens 2, on parle du train de ce monde. Donc ça nous donne cette idée qu'il y a un mouvement qui tend vers une destination, vers un but. Dans le troisième verset, il y a une crucifixion réciproque entre le croyant et le monde. Ça nous fait peut-être penser à la chair qui est en nous. On lit en Galates 5, 24, « Or ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. » Donc, il y a la crucifixion, c'est une mise à mort. Donc, entre le monde et le croyant, vu que c'est une crucifixion réciproque, le croyant doit estimer le monde comme mort autour de lui, comme finalement le monde estime les croyants comme morts et sans intérêt pour lui. Et puis, dans le verset de Jacques, on voit qu'il y a une inimitié complète entre le monde et Dieu. Il n'y a pas de camp neutre. On ne peut pas se dire « je ne veux pas être dans le monde parce que je vois bien que c'est mal, mais en même temps, Dieu, ça ne m'intéresse pas trop, j'aime autant faire ma vie moi-même. » On verra plus tard que ne pas servir Dieu, c'est se mettre au service du monde et il n'y a pas d'alternative. La prochaine signification de « monde », c'est « aion », le mot grec. Et puis, ce mot signifie une ère, un siècle ou une période de temps. Quand il est au pluriel, les mondes, ça désigne même l'univers. Et c'est ce qu'on peut lire dans Hébreux 1, verset 2. « À la fin de ces jours-là, Dieu nous a parlé dans le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel aussi il a fait les mondes. » Et puis, en 2 Timothée 4:10, « Car Démas m'a abandonné, ayant aimé le siècle présent. » Et il s'en est allé à Thessalonique. Donc là, on a une notion de période de temps qui n'est pas nécessairement négative, puisqu'on voit, comme on le voit dans le premier verset, ce n'est pas une signification négative, mais dans le deuxième, on voit que cette période de temps, elle est mauvaise. Donc c'est aussi une signification qui peut être soit positive, neutre, ou bien négative. On voit que le présent siècle, c'est quelque chose qui a détourné des masses du service. Et puis, la cinquième signification, avec le troisième mot grec, c'est « oikoumenei », et ça signifie « la terre habitée ». On lit dans Actes 17, 31, « Il doit juger en justice la terre habitée ». Donc, ça désigne finalement l'ensemble de la population qui habite sur terre. Et en hébreu, 1, verset 6, « Et encore quand il introduit le premier-né dans le monde habité, il dit « et que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. » Alors, dans ce mot, il y a la racine « géo », qui signifie la terre, et puis l'autre partie du mot, c'est la racine pour le mot « habiter » en grec. Et puis, ça laisse vraiment entendre que Dieu, il a créé la terre pour les hommes. Et puis, qu'il attribue finalement de l'importance à l'être humain plus qu'à la terre qu'il a créée. Il l'a créée pour l'homme. Et puis, on peut dire encore une note que de ce mot grec est tiré le mot « œcuménique » en français. Donc, maintenant, on va passer à la nature du monde. Donc, la troisième signification qu'on a vue, le monde qui est dirigé et au service de Satan. Alors, comme Michel l'a souligné de sa prière, on a vu beaucoup d'exemples ces derniers jours et dernières semaines de ce qui se passe autour de nous. Et on voit que le mal abonde et il me semble que ce n'est pas seulement dans ces personnes qui agissent par le terrorisme qu'on voit le mal qui est dans le monde. Et dans nos pays qui étaient christianisés et qui sont aujourd'hui plus laïcs, on voit qu'il y a aussi un mal qui est peut-être moins violent, qui va moins inciter à la terreur, mais qui est tout aussi présent par les choses qui se disent et qui se font. Et j'entendais cette semaine que les gens débattaient sur le droit au blasphème. Est-ce qu'on a le droit de blasphémer? Est-ce que, puisqu'on est libre de tout et qu'on est un état laïque, est-ce qu'on a le droit de blasphémer? Donc finalement, il y a un mal qui peut être clairement classé comme plus violent que l'autre, mais est-ce qu'au final il est pire que l'autre? Peut-être qu'il fait plus souffrir directement, mais aux yeux de Dieu, je pense que nos pays qui étaient christianisés sont peut-être encore plus coupables. Donc, on va lire plusieurs textes maintenant qui nous décrivent le monde en tant que système dirigé par Satan. Le premier, Éphésiens 2, versets 1 à 3. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi, nous avons tous conversé autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. Donc on voit ici un système qui est caractérisé par la corruption, puisque c'est des gens qui sont morts dans leur faute et dans leur péché, donc il y a un état de corruption, et puis qui est véritablement sous la direction de Satan, qui est ici appelé le chef de l'autorité de l'air. Et puis, il y a de nouveau l'esprit qui opère, donc il y a cet esprit du monde qui va pousser les hommes à agir. Et comme on voit dans les mauvais esprits au temps du Seigneur qui prennent possession des hommes pour les entraîner à s'autodétruire et à se mettre en opposition au Seigneur, eh bien, l'esprit du monde aujourd'hui, il est dans les personnes et il entraîne les personnes qui nous entourent, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, à agir en complète opposition à Dieu. Ils sont appelés les fils de la désobéissance. Il y a quand même finalement, une petite partie de ce passage qui surprend, c'est que Paul, il se considère comme partie prenante de ce système avant sa conversion. Même finalement sous le judaïsme, il le dit bien, nous avons tous conversé. Tous ceux qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas vécu la conversion, ils conversent finalement, on a pris cette image du fleuve, ils sont dans le fleuve et dans le courant et ils agissent avec les autres. Donc voilà, on parle ici des convoitises de notre chair, les volontés de la chair et des pensées. C'est pas seulement les choses qui nous entourent, mais c'est des choses qui montent de notre intérieur. Et comme je l'ai dit, vraiment, je le répète parce que c'est important, Paul se considère comme ayant été partie prenante de système avant sa conversion, autrefois. Un deuxième texte, c'est 2 Timothée 3, versets 2 à 5, là c'est une liste des activités du monde. C'est donc l'exhortation de Paul à Timothée. « Car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires. » Enflé d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Or, détourne-toi de tels gens. Alors, cette liste est calamiteuse. Et à la fin, il y a quand même ce mot qui nous surprend, la piété. Qu'est-ce que la piété vient faire ici? Et puis, en relisant le contexte, on voit qu'il y a la forme de la piété, mais plus la puissance. Et c'est le premier exemple qu'on va voir de quelque chose qui est bon. La piété, c'est quelque chose de bien. Mais si elle vient à être corrompue par l'esprit du monde, donc là, finalement, c'est de l'hypocrisie, puisqu'on nous donne la forme, mais qu'il n'y a pas la vie derrière. Si elle est corrompue par l'esprit du monde, ça devient un péché qui fait partie de la liste de tous les autres qu'on a vus auparavant. Alors, pour donner quelques autres exemples de ces choses qui peuvent être bonnes ou mauvaises, suivant si elles sont, on va dire, animées par l'esprit de Dieu ou par l'esprit du monde, on pense au vin, premièrement. C'est dans la parole souvent une source, l'image de la source de la joie. On pense aux noces de Cana, on pense que c'est aussi ce que le Seigneur a utilisé pour instituer la scène, donc le mémorial de sa mort. Et puis, encore plus, presque, on pourrait dire, il est conseillé à Timothée pour sa santé. Donc, c'est quelque chose qui peut être fondamentalement bien et bon. Et puis, ça peut être utilisé pour s'enivrer. Il n'y a pas besoin de faire des descriptions. J'ai mis qu'il y avait l'exemple de Noé, par exemple. Mais enfin, quelque chose qui peut être bien ou mal. Un deuxième exemple, ce sera l'argent. Où, par exemple, Paul loue la libéralité des Macédoniens quand ils ont finalement fait un don. Et puis, en opposition, on voit que l'amour de l'argent a perdu Judas, puisque ça l'a conduit à trahir le Seigneur. Donc ça, finalement, c'est voilà, des choses neutres qui peuvent être bonnes ou mauvaises. On prend un troisième exemple, la prière. Et puis, on ne va pas le lire, mais il y a la parabole du pharisien et du publicain qui montent au temple pour prier. Et on voit que l'un des saints justifié plutôt que l'autre, parce que le publicain, finalement, on pourrait revenir au verset qu'on a vu, il y a une forme de piété, mais derrière, il y a de l'orgueil, il y a de la propre justice, puis c'est des choses qui sont en horreur à Dieu. Donc, même quelque chose qui est fondamentalement bon pourrait devenir mauvaise si elle est corrompue par l'esprit du monde. Et puis, encore, j'ai noté que le travail peut être bon ou mauvais, suivant la manière et l'état d'esprit dans lequel on le fait. La fortune, le service chrétien peut être bon ou mauvais. Alors, peut-être que c'est fondamentalement bon, on peut faire peut-être du bien à d'autres par le service chrétien, mais si nos motivations sont peut-être de prendre domination sur quelqu'un, de se faire bien voir, eh bien, ce sont des mauvaises motivations qui ne plaisent pas au Seigneur. Donc, peut-être première exhortation, attention aux motivations qui sont derrière les choses et derrière les activités, puisque ce sont ces motivations qui vont les rendre bonnes ou mauvaises aux yeux de Dieu. Alors, notre troisième point, les caractéristiques du monde. Ici, on va lire pas mal de versets, enfin, sept versets, et avec peu de commentaires. Le but, ce sera de se convaincre, de se reconvaincre, puisque je pense que c'est déjà le cas pour la plupart d'entre nous, que le monde est fondamentalement opposé à Dieu, qu'il est mauvais, que c'est un ennemi pour nous, et puis qu'on n'a pas à le considérer avec une bienveillante indifférence, comme on dit quelquefois. Donc, le premier verset qu'on va lire, c'est Jean 1, verset 3. « Voyez de quel amour le Père nous a fait don que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. » Donc, Dieu adopte ceux qui croient par le Seigneur Jésus-Christ. On est adopté, on devient enfant de Dieu. Et puis, le monde qui ne connaît pas Dieu ne connaît pas non plus ses enfants. Un deuxième passage où on voit que le monde est complètement asservi à Satan. 1 Jean 5, verset 19. « Le monde entier gît dans le méchant. » Le méchant, ça, c'est traduit le malin dans certaines versions. C'est le diable, finalement. Le malin, c'est la personnification du mal. Et le monde gît, donc c'est être couché, ce mouvement. Il y a souvent une notion de mort, même, puisque c'est ce qui est écrit sur les tombes, s'il gît. Et le monde est ainsi entièrement sous la coupe de Satan. Un troisième exemple, le monde ne reçoit pas le Fils de Dieu. Jean 1, verset 11, il vint chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Donc, il ne connaît pas Dieu, il a servi à Satan, c'est logique qu'il ne va pas recevoir le Fils de Dieu. Ça se concrétise, il est ennemi de Dieu, Jean 4, verset 4. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu ? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Puis là, il y a le terme adultère qui est très fort, puisqu'on sait que c'est un péché dans le cadre du couple qui est une abomination à Dieu. Et les chrétiens, l'Église, sont considérés comme l'épouse de Christ. Et finalement, l'amitié du monde, ça correspond à une infidélité à Christ. C'est d'autant plus fort que c'est une infidélité. Ce serait comme une femme qui irait avec finalement l'ennemi de son mari. Ce n'est pas simplement un inconnu, c'est l'ennemi ouvert, celui qui est fondamentalement opposé à son mari. Et ça doit nous faire réaliser encore plus à quel point le monde est ennemi de Dieu et pas seulement dans une légère opposition. Donc il est ennemi de Dieu, il est ennemi aussi bien entendu des chrétiens. Jean 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est sien, ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde, à cause de cela le monde vous hait. » Alors, le monde étant ennemi, vouloir être ami du monde, c'est pactiser avec l'ennemi, c'est un non-sens de notre part. Et puis dans sa première épître, Jean il rajoute encore « Ne vous étonnez pas si le monde vous hait. » Ce qui devrait nous étonner, c'est si le monde nous aime. Sixième point, ça nous encourage, c'est des points qui commencent à nous encourager. Le monde aura une fin. On ne peut pas dire exactement quand l'esprit du monde, le monde, en tant qu'opposition à Dieu, a commencé. On verra après qu'on peut avoir une idée depuis quand il était là, mais quand exactement il y a eu cette opposition ouverte de par Satan contre Dieu. Mais il est là depuis longtemps, il est là aujourd'hui continuellement, mais il aura sa fin et ça doit nous encourager. Et puis Dieu donc dit qu'il s'en va et sa convoitise, donc c'est une bonne nouvelle pour nous, on va être délivré de ses convoitises. Et puis alors il y a encore quelque chose qui nous encourage plus, c'est à la fin du verset, mais celui qui fait la volonté de Dieu dure éternellement. Donc c'est la promesse de la vie éternelle, et puis dans cette vie-là, on sera libéré de ce monde, de cet esprit du monde. Et puis pourquoi est-ce qu'il s'en va ? C'est parce qu'il est d'ores et déjà condamné par Dieu. En Corinthiens 11, 32, « Mais que nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Donc, oui, Dieu peut juger des croyants, il peut exercer la discipline, il peut châtier, mais le jugement, mais on ne sera pas jugé et condamné avec le monde. Notre condamnation est déjà tombée sur Christ à la croix. Donc, nous ne serons pas condamnés avec le monde, mais le monde, lui, est déjà condamné. Donc, une petite conclusion. Le monde est donc entièrement étranger à la vie de Dieu et se trouve entièrement dans l'erreur et l'opposition. Ephésiens 4, 17 à 19. « Voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur. » C'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations marchent, dans les vanités de leurs pensées, ayant leur entendement obscurci, étant étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et qui, ayant perdu tout sentiment moral, se sont livrés à la débauche pour pratiquer avidement toute impureté. Donc il y a quelques expressions dans ces versets qui nous interpelle. La première, c'est être étranger à la vie de Dieu. Donc, c'est la confirmation de tout ce qu'on a vu auparavant. Il n'y a rien de commun entre Dieu et le monde. Et puis, il a perdu tout sentiment moral. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui nous interpelle autour de nous, où on appelle le mal bien et le bien mal. Et comme on a dit au début, avec tout ce qui se dit aujourd'hui par rapport à la religion, au terrorisme et à ce genre de choses, et on sent que il n'y a plus de repères moraux et il n'y a plus de sentiments moraux, finalement, de nos compatriotes, pour la plupart. Et quand il en reste un petit peu de sentiments moraux, il n'a plus de base et donc plus de valeur. Si on n'a pas une base, une base fidèle, et pour nous, c'est la parole de Dieu, la Bible, pour se donner un sentiment moral, puisque c'est l'expression qui est utilisée ici, ça n'a aucune valeur, et puis finalement, chacun peut développer sa moralité comme il lui convient, et on voit ce que ça donne autour de nous. Alors, dans ces conditions-là, la dernière phrase du verset, ils se sont livrés à la débauche, donc ils se sont complètement donnés à la débauche, hein, une livraison, on perd tout droit sur, une fois que quelque chose est livré, on perd tout droit sur cette marchandise, donc la débauche est finalement complètement propriétaire de ceux qui s'y sont livrés, et c'est l'exagération, la débauche c'est l'exagération dans tous les domaines de la Bible, donc c'est un terme qui fait penser en particulier d'abord à la sexualité, et on le voit malheureusement autour de nous, mais c'est dans tous les autres domaines de la vie. Et puis, pour pratiquer avidement toute impureté, donc c'est pas seulement la pratiquer du bout des doigts, mais c'est d'y aller finalement à pleine bouche. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut constater autour de nous. Par rapport au sentiment moral aussi, j'ai pensé au verset de Jude 9, mais Michel l'archange, qu'en discutant avec le diable, il contestait, touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui, donc contre le diable. Mais il dit que le Seigneur te censure. Mais ceux-ci, ils injurient tout ce qu'ils ne connaissent pas et se corrompent dans tout ce qu'ils comprennent naturellement comme des bêtes sans raison. Donc là aussi, par rapport à tous ces débats et discussions qu'on entend autour de nous, on se rend compte que beaucoup de personnes injurient ce qu'ils ne connaissent pas et que Michel l'archange, qui est finalement beaucoup mieux placé que nous, lui n'a pas osé se mettre sur ce terrain glissant, on pourrait dire. Donc là, on a une description pitoyable de ce qu'est le monde. Et puis, j'aimerais, pour qu'on puisse y trouver un encouragement, la mettre en contraste avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, souligner à quel point il y a une opposition qui est complète, mais qui pour nous est merveilleuse, entre Christ et l'esprit du monde. Christ a glorifié Dieu. Dans toute sa vie, il n'a jamais cherché à tirer la couverture sur lui, mais toujours à ce que son Père soit glorifié. On le lit beaucoup dans l'Évangile de Jean. Et puis, en opposition, le monde glorifie l'homme. Tout ce qui peut détourner Dieu. On voit que Satan cherche à prendre un homme et puis à entraîner les autres à l'honorer, à l'adorer, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le cinéma, que ce soit finalement aussi dans ce qu'on verra à la fin des temps ou avec l'Antichrist et où les hommes vont arriver à l'adoration d'un homme et tout ce qui va les détourner de glorifier Dieu. Un deuxième point, Christ a donné sa vie pour les autres et ça, c'est pas seulement à la croix qu'il l'a fait, mais c'est tout au long de son ministère où il s'est donné aux autres, il a donné son temps, il a finalement donné sa santé, il a jamais rien gardé pour lui que la nourriture et encore. Et en contraste avec ça, le monde ne vit que pour prendre. Chacun, c'est moi, je veux m'enrichir, je veux en avoir plus et si possible, ne rien laisser aux autres. Christ a recherché le pauvre, l'opprimé et ceux qui étaient dans le besoin. Ça aussi, on le voit tout au long de son ministère. Il a répondu aux besoins. Il s'est intéressé à ceux qui n'intéressait plus personne. On peut penser à la Samaritaine ou au puits de Sichar. Et puis, le monde recherche la richesse, le pouvoir et l'autosuffisance. Et puis, les paroles de Christ, il était doux et humble de cœur, alors que le monde est arrogant et brutal. Christ a agi avec douceur, avec bonté, mis à part peut-être quand on le voit chasser les vendeurs du temple. Mais là, c'était pour la gloire de Dieu, donc on retombe sur notre premier point. Et le monde, il va s'accaparer, il va prendre, et s'il doit le faire par la violence, il ne va pas se gêner de le faire. Alors, on a ici deux exemples complètement opposés, et encore une fois, on peut se poser la question, lequel de ces deux maîtres désire-t-on servir? Auquel de ces deux maîtres a-t-on envie de ressembler? Donc, je pense qu'on peut répondre facilement à cette question. Notre point suivant, c'est les tactiques du monde. On va peut-être mieux comprendre le titre après. Mais quelles sont les armes que le monde va utiliser pour entraîner les croyants à sa suite, pour entraîner les croyants à finalement pécher et ainsi s'opposer à Dieu? On va lire deux versets dans la première épître de Jean, chapitre 2 et les versets 15-16. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais du monde. Donc on a ici une liste de trois, on va appeler ça des armes du monde. La première, c'est la convoitise de la chair. Le péché est attisé par le fonctionnement de notre vieil homme, la chair. Donc on sait que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, et puis on sait aussi cependant que nous avons encore la chair en nous, on le verra plus en détail après. Et la chair, c'est finalement ce qui va nous entraîner, continuellement chercher à nous entraîner. C'est un principe qui est lié à notre corps physique, donc tant qu'on est en vie sur terre, on ne peut pas s'en débarrasser. Donc la première des armes du monde, c'est cette convoitise de la chair. La deuxième, la convoitise des yeux. Le péché ici est attisé par tout ce qui passe par notre regard et qui est interdit. Donc, on comprend bien, peut-être les hommes particulièrement, ce qu'est la convoitise des yeux quand on ouvre un journal, on regarde des affiches dans la rue et on se rend compte qu'effectivement, il y a certaines pensées mauvaises qui peuvent très vite arriver en nous de par ce que nous regardons. Et la troisième arme, c'est l'orgueil de la vie. La seconde 21 dit l'orgueil dû aux richesses. C'est ce mauvais désir qui peut si facilement germer en nous de posséder plus. Et ça peut être les richesses, comme c'est souligné dans la traduction seconde, mais ça peut être posséder plus de gloire, que ce soit un meilleur statut social, n'importe quoi, mais c'est désirer devancer les autres, être meilleur, paraître plus. Et si maintenant on analyse la chute originelle en Genèse 3 à la lumière de ce deuxième chapitre de Jean, et qu'on se pose la question, comment est-ce que Ève est tombée? On lit en Genèse 3, verset 6. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle, et il en mangea. Donc, quelles ont été les étapes successives, ou comment est-ce que les armes de 1 Jean 2 se sont manifestées dans cette histoire-là? Premièrement, l'arbre était bon à manger. Donc là, il y a la convoitise de la chair. Et c'est un mauvais désir qui vient de l'intérieur. Et c'est un désir, il est mauvais parce qu'il est, c'est un désir pour quelque chose qui est interdit. L'arbre avait été défendu aux hommes. Quand on s'assied devant un bon repas et qu'on voit que c'est bon à manger, ce n'est pas la convoitise de la chair parce que c'est quelque chose qui nous est légitimement donné par Dieu. Il y a vraiment la notion de quelque chose de mauvais dans cette convoitise de la chair. Désirer ce qui a été interdit ou qui est mauvais pour nous. Le deuxième point, on lit qu'il était un plaisir pour les yeux. Il était beau à regarder. Et là encore, on peut admirer un beau paysage et louer le Seigneur. Et il n'y a pas de mauvaise chose à cela. Mais le plaisir pour les yeux, quand c'est le fruit interdit, ce n'est pas parce qu'il est interdit que c'est un péché. Ils pouvaient regarder avec plaisir tous les autres fruits du jardin. Ce n'était pas un péché. Ils étaient là pour qu'ils les mangent. Mais pas ce fruit-là. Et c'est là qu'est le péché. Et puis, le troisième point, l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et là, on arrive sur l'orgueil de la vie. Il y a un désir d'obtenir plus, alors que Dieu n'a pas désiré le donner à ce moment-là. Dieu n'a pas jugé qu'ils aient cette connaissance dans le jardin. Et puis, cet orgueil de la vie a été attisé par les paroles du serpent, « Vous serez comme Dieu ». Donc, non seulement on va être plus que les autres, Adam et Ève, il n'y avait pas grand monde autour d'eux, donc ce n'est pas nécessairement ça, mais Dieu a attisé leur orgueil, finalement, d'être comme Dieu. Et ça, c'est finalement aussi quelque chose qui nous guette aujourd'hui, puisqu'on a facilement le désir de vouloir être comme des dieux, finalement. Alors, ce qu'on peut voir en conclusion de cet exemple, c'est que les trois armes du monde dont Jean nous parle, ils étaient déjà présents à la chute en Éden. Donc, l'esprit du monde, le monde en tant que système opposé à Dieu, est arrivé à ce moment-là. Probablement, c'est à ce moment-là que Satan que l'esprit du monde s'est fait sentir. Avant ce moment-là, il n'y était pas, puisque les hommes n'avaient pas encore péché. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les trois ennemis dont on a parlé au début, ils sont là aussi. On a Satan sous la forme du serpent, on a la convoitise de la chair qu'on vient de développer, et puis le monde qui englobe ces trois péchés. Donc, les trois ennemis du croyant étaient déjà présents au moment de la chute, et ils ont, en guillemets, les trois travaillé ensemble pour conduire à cette chute. Et puis, c'est important de comprendre qui sont ces ennemis, comment ils agissent, mais c'est aussi important de comprendre que souvent ils agissent de concert pour entraîner les croyants dans le péché. Alors, comme on n'a pas lu les paroles du serpent, mais comme le serpent l'a fait pour Ève, comme Satan l'a fait pour Ève, eh bien, il continue aujourd'hui de nous susurrer la philosophie mensongère et mondaine. Et puis, j'ai pris quelques exemples. Par exemple, il nous dit, si tu en avais juste un tout petit peu plus, tu serais tellement plus heureux. C'est vrai, on n'en a quand même jamais assez. Moi, j'ai compris un petit peu ce principe quand j'étais petit. Et puis, on aimait faire des Lego, et puis on s'achète une boîte de Lego, puis on construit vite fait le machin, et puis après on regarde dans le catalogue, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Puis on se dit, ah, quand j'aurai celui-là, ce sera tellement mieux. Puis si une fois on l'a, ben, on se rend compte que c'est mieux, mais c'est pas suffisant. Quand j'étais plus grand, j'avais peut-être pas assez appris la leçon, mais je l'ai remarqué que c'était la même chose. Moi qui aimais lire des BD, si on achète une bande dessinée, ben, on la lit, puis on tourne la dernière page, et puis derrière, il y a toute la liste de ce qu'on n'a pas encore. Donc c'est un mensonge que Dieu nous adresse. Il nous fait croire, mais ça, si tu l'avais, ce serait tellement mieux. Et puis quand on l'a, ben, il nous faut autre chose. Autre chose qui peut nous susurrer, c'est si tu as envie de faire quelque chose. C'est pas la peine de patienter, vas-y tout de suite. On pense particulièrement au mariage aujourd'hui, où la patience n'est plus du tout pratiquée ou valorisée. Si ça te fait plaisir, fais-le. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ça, on l'a souvent entendu. Puis après, on arrive dans des choses qui sont... Finalement, ça, c'est assez grossier. Si on, en tant que chrétien, on l'entend, on se dit, oui, mais c'est du bidon. Même si on se fait des fois avoir, on se rend compte que c'est faux. Mais parfois, il peut dire, c'est bien, tu es chrétien, tu es sauvé. Ben, profite de la vie, de toute façon, tu es pardonné. Mais qu'est-ce que tu dois être malheureux d'obéir à Christ? Décoince-toi, fais ce qui te plaît. Quoi, t'as pas le droit de faire ça? Mais tu dois être malheureux. Avoir Christ, c'est bien, mais c'est certainement pas suffisant pour être heureux. Il faut bien garder certains domaines de ta vie pour toi, fais un peu ce qui te plaît. Ça, c'est les mensonges que Satan continue de nous dire aujourd'hui. Quelle conclusion pour nous chrétiens? On se construit des monastères et on va s'y cacher pour se couper de cet environnement mauvais et malsain, puis on attend le retour du Seigneur. On peut dire comme Paul en Romains, qu'ainsi n'advienne. Vous aurez deviné qu'on est arrivé à notre fausse conclusion. Donc non, c'est faux. Et on va essayer de donner deux raisons. J'en ai trouvé deux, peut-être qu'on pourrait certainement en trouver d'autres. Mais la première... Ouais, j'ai passé mon slide trop vite, mais enfin, on a vu qu'on a cet entourage mauvais qui nous entraîne toujours à pécher. On se rend compte tous les jours qu'il y a cette influence néfaste autour de nous. Mais si on réfléchit bien, force nous est de constater que les convoitises et l'orgueil mondain, ils montent aussi de notre cœur. On l'a vu avec la convoitise de la chair c'est quelque chose qui nous est intérieur. Eh bien, l'esprit du monde va monter aussi notre cœur. On le lit dans Matthieu 15. « Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les injures. » Donc, se couper de l'entourage mauvais ne va pas résoudre notre problème. Et puis, la deuxième raison, on la trouve dans une deuxième raison, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je voulais insister sur deux aujourd'hui. On la trouve dans la prière de Jean 17, versets 14 à 17. « Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc la deuxième raison pour ne pas se construire des monastères et aller s'y enfermer, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Le Seigneur, il n'a pas demandé qu'on les ôte du monde. Il le dit spécifiquement. S'il ne l'avait pas dit, on pourrait encore avoir des doutes. Mais là, il dit, je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ça m'a frappé, le dernier verset du cantique qu'on a chanté, il disait, je ne sais plus, mais il parlait d'étrangers, ici-bas étrangers. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde comme des étrangers qui sont finalement expatriés hors de leur pays. Ils ne se sentent pas suisses, ou comme ils sont une nationalité, mais ils sont suisses en tant qu'étrangers. Et nous avons être dans le monde en tant qu'étrangers aussi. Pour aider à comprendre peut-être ça, je voulais tirer un parallèle avec la chair, donc le fonctionnement de notre ancienne nature, de nos vieux hommes. Et on lit simplement trois versets de Romains. Premièrement, 8 et 9. « Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. » Donc ça, c'est les inconvertis. « Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Donc, on n'est plus dans la chair, mais dans l'esprit. Et par contre, on voit au chapitre 7, verset 18, « Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. » Donc, si on veut tirer un peu un parallèle ou voir faire un bilan, on va dire, c'est que les incroyants, ceux qui n'ont pas été sauvés par Christ, ils sont dans la chair, c'est quelque chose de spirituel, ils sont dans le monde, c'est quelque chose de géographique, et ils sont du monde, et ça c'est quelque chose qui est affectif. Les enfants de Dieu, ils ne sont plus dans la chair, comme on vient de le lire, mais ils ont encore la chair en eux. Et puis, ils sont dans le monde, donc c'est une position géographique qui n'a pas changé avec notre conversion, mais ils ne sont pas du monde. Affectivement, nous ne sommes pas du monde. Donc, on peut dire qu'on est délivré de la toute-puissance de ses ennemis, mais pas débarrassé d'eux. Dieu nous a délivrés de la puissance de Satan, mais il est encore là avec cette chair et ce monde autour de nous, et on n'en est pas encore débarrassé. C'est pour cela que ça nous arrive encore de pécher. Donc, en Jean 17, on voit que non seulement le Seigneur ne demande pas à ce que nous soyons retirés du monde, mais en plus, à la fin, on voit qu'il les y envoie. Il envoie ses disciples. Et puis, alors forcément, pour cela, il ne nous laisse pas à nous-mêmes, il nous accorde des ressources. Premièrement, il prie pour nous, et puis cette prière de Jean 17 est magnifique parce que le Seigneur y prie pour ses disciples, mais aussi pour tous ceux qui croiront en leur parole, et ça, c'est jusqu'à nous, et cette prière est pour nous. Et cette prière continue, on le voit dans Romains 8, où le Seigneur est aussi à la droite de Dieu et intercède pour nous. Donc, la prière du Seigneur en Jean 17, historiquement, il y a 2000 ans, elle est encore valable pour nous, et aujourd'hui, le Seigneur, même au ciel, continue de prier pour nous. Ça, c'est un encouragement. On sait que la supplication du juste peut beaucoup, et il n'y a pas de juste par excellence comme le Seigneur. Le deuxième point, on l'a lu à la fin du verset 17, il nous donne sa parole, et cette parole est sanctifiante. Sanctifie-les par la parole, ta parole est la vérité. Et troisièmement, verset 19, « Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Donc, je ne comprends pas très bien toute la profondeur de ce verset, mais la sanctification du Seigneur, donc la manière dont lui a vécu, il s'est consacré, il s'est offert à Dieu complètement, elle doit nous servir d'exemple. Elle doit nous, par son exemple, il nous montre le chemin à suivre. Et puis, avec ce deuxième et ce troisième point, on voit que la sanctification semble être quelque chose d'essentiel pour pouvoir évoluer en tant que chrétien dans le monde. Donc, on va juste revoir une fois la définition. Cela rappeler, sanctifier, c'est se consacrer ou se mettre à part pour Dieu. Le Seigneur l'a fait et il nous invite à le faire à sa suite. Alors, pratiquement, puisque nous sommes envoyés dans le monde, comme on l'a vu dans la prière du Seigneur, qu'est-ce qu'on va y faire? Ou qu'est-ce qu'on ne va pas y faire pour commencer? Romains 12, verset 2, Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Alors on commence par ne pas s'y conformer. Se conformer, c'est devenir semblable à être quelque chose. On pourrait dire être des petits caméléons au lieu d'être des petits Christ. Dans la traduction Parole de vie, il parle de suivre les coutumes du monde. Alors, on a tôt fait d'assimiler ça à toute l'action du monde autour de nous, mais on a vu que les actions sont motivées par les actes sont motivés par des pensées et par des motivations, et que ces pensées et ces motivations ont autant d'importance, voire plus que les actes qu'ils entraînent. Donc, Dieu désire renouveler notre entendement, et pour que cela puisse se faire, eh bien, on a à lutter contre cet esprit du monde et à ne pas se conformer à ce siècle. Et la clé, finalement, on la trouve au verset 1 de Romains 12. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. » Et puis la seconde parle de culte raisonnable. On doit nager à contre-courant. On doit remonter le courant du monde qui coule, le fleuve du monde qui coule à sens inverse de notre but, et qui cherche finalement à nous entraîner loin de Dieu. Et puis, c'est un service intelligent où c'est raisonnable. Si on prend le temps d'y réfléchir en tant que chrétien, c'est la seule chose logique à faire. Le fait est que si on ne veut pas se mettre au service de Dieu, on va être au service du monde. Et puis, il y a une chanson de Bob Dylan qui dit ça. Une chanson qui était intitulée « Gotta serve somebody », il faudra servir quelqu'un. Et puis au refrain, il répète chaque fois « Tu vas devoir servir quelqu'un, ce pourrait être le diable, ou ce pourrait être Dieu, ou ce pourrait être le Seigneur, mais tu vas devoir servir quelqu'un. » Il n'y a pas... L'homme est finalement destiné à servir Dieu, et puis s'il ne sert pas Dieu, il sert le diable. Et il n'y a pas de troisième catégorie. C'est quelque chose de complètement exclusif. Un deuxième passage, Tite 2, 11 et 12. « Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Nous enseignons que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement. » Donc de nouveau, on trouve ici une exhortation à rejeter le monde, ici à renier, et puis d'autre part, une exhortation positive pour nous croyants. Donc l'avertissement, c'est renier ou rejeter l'impiété et les convoitises mondaines, qu'on a déjà développé avant, les convoitises, mais l'impiété, c'est tout simplement s'opposer complètement à Dieu et à sa parole. Et puis l'exhortation positive, c'est de vivre dans le présent siècle sobrement. Donc c'est un contrôle sur soi. C'est exercer un contrôle sur soi en faisant preuve de modération. C'est le contraire de ce qu'on a vu avant, livrer à la débauche pour pratiquer avidement toute impiété. Le deuxième point, c'est justement, donc ça concerne toutes nos relations avec les gens qui nous entourent. Et puis le troisième point, pieusement. C'est une relation vivante avec Dieu, caractérisée par la crainte, le respect et la confiance. Un troisième texte qui nous parle de ça, c'est Jacques 1, verset 27. « Le service religieux pur et sans tâche devant Dieu le Père est celui-ci, de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver pur du monde. » Donc ici, l'enseignement concerne le service. Et puis, on se rend bien compte qu'à visiter finalement les personnes qui sont délaissées de la société, les orphelins et les veuves, eh bien, on va pouvoir se conserver pur de l'esprit du monde. On ne va pas en tirer une glorification, on ne va pas s'enorgueillir de cela. Et de nouveau, il y a les deux choses qui sont mises en opposition. Donc, par ces exemples, j'ai trouvé frappant, c'est que chaque fois, il y a un avertissement, une interdiction, et chaque fois, il y a une exhortation positive. Donc, s'il y a une exhortation à fuir la mondanité, et puis il y a un but vers lequel fuir. Puis ça me fait penser à en 2004, ce frère Conatin est venu me visiter au Canada. On a fait un tour de canoë de 2 jours. Et puis, c'était fin octobre, donc les journées étaient déjà passablement courtes. Et puis, quand on fait un tour en canoë, bien sûr, on a envie de voir des bêtes sauvages. Et puis, le soir, vers 5 heures, je pense, on a entendu un galop assez lourd. Et puis, on a vu un ours arriver au bord de l'eau. Je ne sais pas quelle distance de nous, mais pas très très loin. On a quand même eu, on l'a bien vu. Et puis, ça nous a spécialement motivés à avancer assez vite pour mettre de la distance entre cet ours et nous. Et puis, on n'a pas gagné encore une heure de temps. On a fait notre campement. Et puis, moi, j'ai assez bien dormi, mais Nata a relativement mal dormi cette nuit-là. Donc, on s'est enfui, entre guillemets, de cet ours, mais on n'a pas arrivé dans un surrefuge. Et puis, ce que Dieu nous propose, c'est un surrefuge. Et puis, on l'a vu dans Romains 12, c'est offrir nos corps à Dieu, et finalement la sanctification, comme on l'a vu avant. C'est cela qui va nous préserver du monde. Donc, on arrive gentiment à notre conclusion. Dieu nous place dans le monde avec des ressources, donc on en a vu quelques-unes, pour nous en conserver purs, mais aussi avec un but, être ses témoins auprès des hommes. On peut lire Jean 17, verset 23. On doit être témoin de son amour. « Afin qu'il soit consommé en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Dans le monde, dans cette opposition, dans cet environnement mauvais où on est appelé à montrer l'amour de Dieu pour Christ, l'amour de Dieu pour nous. Et c'est au travers de nos relations. On sait qu'un autre verset un peu plus tôt dans l'évangile de Jean, c'est « Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Il y a vraiment quelque chose de fondamental dans le témoignage de l'amour de Dieu autour de nous. Deuxième point, on doit être témoin de la lumière divine. Matthieu 5, versets 14 et 16, la parabole de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe. Et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, il y a ce témoignage à rendre à Dieu. Et quel en sera le but? Il glorifie votre Père. Ce témoignage doit être à la gloire de Dieu, parce que si c'est un témoignage pour notre gloire, eh ben on arrive dans l'orgueil de la vie et c'est de nouveau les œuvres du monde. Donc, nos œuvres, nos vies doivent être à la gloire de Dieu. Et on doit être prudent de ces vicieux et on pourrait vite être entraîné à se rechercher une gloire personnelle. Et puis, un troisième verset en Éphésiens 5. « Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. » Les jours étaient mauvais du temps de Paul, ils sont toujours mauvais aujourd'hui. Et dans ces circonstances mauvaises, on doit être témoin de la sagesse de Dieu dans notre marche. Car c'est ici l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Dans ces trois versets, il y a trois références à la victoire sur le monde. La première, c'est ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous nés de Dieu, nous avons cette ressource pour être victorieux du monde. Et si on a cru, c'est par la foi, et notre foi est la victoire qui a vaincu le monde. Et puis finalement, qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est aussi finalement un des caractères du chrétien, c'est d'avoir la foi que Jésus est le Fils de Dieu, et c'est encore une raison un argument pour être victorieux du monde. Donc, dans ces trois versets, on a trois arguments qui nous rendent victorieux du monde. Alors, qu'on puisse s'encourager, croire à ses promesses, et puis, dans notre marche quotidienne, avoir ce désir d'être victorieux du monde, et puis ce désir de glorifier notre Père, comme on l'a vu dans les versets qui précèdent.